Pas moins de 300 têtes d'érosion menacent certaines communes de la ville de Kinshasa. À ce sujet, l'hôtel de ville s'engage dans la lutte contre cette dégradation du sol depuis fin août. L'Office des routes exécute les premiers travaux de construction d'un collecteur d'eau au fond du site érosif Matondo, quartier Kingu, dans la commune de Selembao. Cette érosion présente un danger pour la route de la Libération, située à quelques 20 mètres, mais un risque pour la route de Matadi à près de 25 mètres. Mais comment ont finalement évolué les travaux destinés à stopper la progression de cette aide d'érosion? Nous allons justement parler aujourd'hui avec Jean-Claude Missa, ministre provincial du plan. Il est là justement pour nous informer davantage sur cette question. Mais nous rappelons encore une fois à tous ceux qui souhaitent intervenir directement, qui peuvent nous appeler au 081 890 63 94. Si vous souhaitez témoigner directement dans cette émission ou encore là, on va un SMS au 081 070 2050. Patrick Bomboka, avant de recevoir notre invité, nous faisons le point avec vous parce que vous avez eu à circuler dans la ville de Kinshasa pour vous rendre compte de la situation. Alors, le site érosif de Kingu figure parmi plus de 300 têtes d'érosion à travers la ville de Kinshasa. À quelle période exactement remonte le début de cette érosion dans la commune de Selembao?
Bonjour Nicole, le site érosif de Kingu est né suite à des fortes pluies diluviennes tombées dans la nuit du 24 au 25 octobre 2007. Il faut dire que cette nuit-là, le lit du bassin de rétention d'eau construit sous l'avenue Matondo sera débordé. Il s'ensuivra l'éboulement du terrain. Ainsi, brutalement réveillés, certains habitants du quartier vont abandonner derrière eux maisons et tous les biens écroulés, comme ils témoignent ici.
Érosé Banara Izakana Boutou, Yamboulo Isalaka. Inondation et ça là presque bêta qui ne mobilise pas le Congo mobilise pas. Bakufa tenir banda qui belle bukana qui en même temps n'engage pas banda comme sous ses alliés au moins à qui mutuna ma quantité banda qui bukani.
Rosie banda qui connaît la cité il faut qu'on intéresse moi à comme bâtir la bassin awa mon bâtir pas sous quasi ma mort et Rosie banda nous mate banda qui va poser la question ni à ses arabes ni même à ni ses kiri. Ils ont osé quand la carte n'engage pas au camp à quand banda qui carte une carte carte une dame qui est ici. Si vous tournez donc c'est là au moins bien au fil des routes leur ayez. Et bandeau c'est les kiti banjela bon la sécu na ba ningi ti se sunda gutala de ntoza ku tuma ite to sungule ite gunde to bunu banda asi
ka banda ku buka ni le reseye ye ka fesu sira ka $50 na muzinyo su $50 $50 ba de zoki na lokalite ba le gouverneur a pesi na 15,000 ba fesu sira ka $50.
Il nous a apporté une dernière précision, $50 par personne. On leur avait distribué des fonds pour aller ailleurs ou quoi?
C'était un montant qui leur a été remis au niveau de la localité, il raconte ses témoins. Il dit donc avoir reçu $50 sur un montant global de $15,000 destiné à payer à tous ceux qui étaient sinistrés. C'est un montant qui a été débloqué par l'hôtel de ville.
Donc ils devaient, en fait, c'est une manière pour l'hôtel de ville de leur restituer.
De venir en aide à tous ceux qui étaient sinistrés. De suite, c'est plus divisé.
Alors, une année après cette catastrophe naturelle, Patrick, quel type de travaux réalise l'Office des routes pour maîtriser cette érosion?
L'ampleur des dégâts exige, Nicole, des grands travaux d'assainissement. Pour l'heure, la brigade de l'Office des routes, commise à ces travaux, construit un vaste caniveau dans les sillons du site Kingu, long de 269 mètres, suivant les explications de l'ingénieur Jean-Claude Binda.
C'est une glissière en béton armé, c'est-à-dire nous construisons un caniveau. Un grand que nous appelons glissière ou bien un collecteur pour recueillir toutes ces eaux qui viennent du bassin versant de Sila et de Lupin et de l'autre côté de Sanfi, les ramener plus loin là jusqu'au bas-fond. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas arriver dans le bas-fond. Nous nous limitons, là nous avons construit le bassin. Nous avons commencé d'abord les travaux de sauvegarde, nous avons commencé au mois de juin, juillet. Mais les travaux proprement dits, nous avons commencé au mois d'août, c'est précisément le 24. Nous avons décidé, en compte des moyens qui ont été mis à notre disposition, de construire un ouvrage en béton armé, sur une longueur de plus ou moins 269 mètres. Et puis là-bas, vous remarquerez, il y a un bassin là-bas. Nous avons confectionné une digue qui est allée au-delà de plus de 25 000 mètres cubes. La digue va contenir des eaux. Normalement, s'il y avait des possibilités, nous devons continuer notre ouvrage jusque dans les bas-fonds. Ça serait une solution définitive, mais dans un premier temps, nous nous limitons d'abord là-bas.
Donc si je comprends bien, les travaux au niveau du site de Kingu évoluent plutôt bien.
Jusque-là.
Oui, c'est l'impression. Vous avez vu ces travaux?
J'étais sur le terrain, j'ai vu comment les travaux évoluent. Et pour l'heure, disons que le caniveau n'est pas encore totalement achevé. On a une bonne partie d'ouvrages qui devraient être réalisés, notamment le bassin, notamment la digue. Disons qu'ils sont déjà jusque-là réalisé.
Oui. Alors, en dehors de la réalisation d'une glissière, ce caniveau qui permet de conduire les eaux en provenance des versants de l'UPN vers la rivière Calamon, quelle autre solution préconise en attendant l'Office des routes?
En fait, les agents de l'Office des routes continuent simultanément à planter de la végétation sous le monticule de ces vastes trous. Un nouveau bassin de rétention d'eau d'une capacité de 25 000 mètres cubes est mis au point. Et pour les conducteurs des travaux, l'ingénieur Jean-Claude Binda, la solution définitive, vous l'avez tantôt suivi, réside par contre dans l'expropriation d'une partie du quartier afin d'ériger un ouvrage beaucoup plus durable.
Normalement, on devrait exproprier tous les quartiers ici pour construire un autre ouvrage. Mais malheureusement, compte tenu des moyens, nous avons été obligés de construire notre ouvrage dans les sillons. De part et d'autre, vous verrez de l'autre côté, il y a la végétation qui est en train de se planter. Mais malheureusement, nous avons un problème aussi de toutes ces eaux qui viennent de l'UPEN. Ces eaux-là restent stagnantes pendant très longtemps. Si les autorités peuvent penser à construire un égout pour les eaux qui viennent de l'UPEN et les ramener directement dans le bas-fond, ce serait une très bonne solution.
Voilà, donc l'idéal serait que la population se déplace à ce niveau.
Justement, parce que vous savez que les travaux, comme il l'a dit, ils le font dans les sillons, c'est-à-dire à l'intérieur de ces ravins. Mmh. Ils auraient souhaité qu'ils trouvent de l'espace sur la terre ferme pour réaliser un ouvrage beaucoup plus résistant.
Donc là, il faudrait délocaliser la population.
Justement.
Si on doit leur céder une partie de la terre.
Et délocaliser suppose l'expropriation. Mmh. Et cela appelle à une longue procédure pour arriver à terme de cette démarche.
Donc ce n'est pas faisable, hein, finalement.
C'est faisable, mais il faut commencer quelque part.
Mmh. Alors, Patrick, cette érosion a emporté, nous savons, une vingtaine de maisons. Comment réagissent les habitants que vous avez eu rencontrés sur place, compte tenu de l'avancement de ces travaux?
Disons que leurs avis sont partagés. Si certains se félicitent de la construction de ces caniveaux, d'autres encore regrettent le fait que l'Office de route ait résolu d'ériger un puits qui est exposé au même risque d'écroulement qu'il y a une année. Et nous pouvons les écouter, ils réagissent ici lorsque nous étions sur le terrain.
Pondenge sana tangu bazaki na babandite iteme zaki kaka mwaliko likolo nena ndenge ke babandi aliope baoke nango ezadie bazusa la penza musale ezadie ne eloko ka moko erere zali bazusa la karnivo na kasi pende fali ba luka ke ba matango ma mukeme bango bachango na se nde eloko ka ezobani saba na ndenge baose lelango eza penza terasi moko ezala dirabe
papa na la sekurite po oyo paske ezali pui so bafali terasi banda likolo ti na mai la saba. Mais bâti sous puits, nous les avons calibrés. Bon, puis on a suivi ma étendi. Un jour, je peux vous canaler quand nous allons vous suivre canaki. Et en gros, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai trouvé cette pièce dans ma main.
Voilà, donc là, on a l'impression qu'il y a, comme qui dirait, une certaine incompréhension. Les habitants souhaiteraient que ce ne soit pas des caniveaux aussi profonds. Ils vont mettre un peu plus au-dessus.
Parce que les habitants craignent de vivre la même scène qu'il y a une année. C'est-à-dire, on dispose d'un bassin dont l'entretien ne suit pas, et conséquence, les bassins s'écroulent et ils seront exposés à des mêmes risques de déboulement du terrain.
Oui, vous qui avez été sur place, vous partagez le même avis que la population?
De toutes les façons, à suivre l'ingénieur qui conduit les travaux, il aurait mieux souhaité que cet ouvrage soit réalisé sur la terre ferme, c'est-à-dire sur un terrain loin du sillon, c'est-à-dire de l'intérieur de ces grands trous.
Ok, alors est-ce que l'opérateur public commis à ces travaux a des moyens suffisants?
C'est le gouvernement provincial, comme vous le savez, qui affecte les fonds nécessaires pour ces travaux. Selon l'ingénieur Binda, ils auraient déjà obtenu 30 000 dollars d'acompte de la part du gouvernement provincial et que les prévisions pour l'ensemble des travaux vont plutôt au-delà d'un million de dollars si l'on tient à arriver au bout des travaux dans l'ensemble, comme il nous l'avait dit sur place. On écoute.
Dernièrement, le gouvernement nous a donné dans un premier temps une petite acompte de 30 000. Je sais que ça va encore suivre comme il avait promis. Les prévisions étaient à 770 000 dollars. Si on devrait arriver dans les points les plus bas là-bas, c'était dans les 1 400 000.
Alors pour évoluer sur la question, nous savons qu'il y a d'autres sites érosifs. Alors qu'en est-il de l'autre raison de Kitokimosi sur la route de la Libération, toujours dans la commune de Selimbao?
Disons, Nicole, que non loin de cette érosion des Kingu, il y a l'autre région de Kitokimosi, qui convient plutôt aujourd'hui de parler d'ex-érosion des Kitokimosi, parce que ces ravins spectaculaires ont totalement disparu.
Ah bon?
Oui, M. Silver, qui est sous des missions de l'entreprise Afritech, nous explique comment ils ont rétabli ce tronçon routier.
il a d'abord fallu purger, c'est-à-dire enlever à peu près 3000 mètres cubes d'immondices dans la route ancienne. Hein. Et puis après, ben, nous avons remblayé hein, par couches successives avec du matériau qui venait de la carrière de l'entreprise de Mittendi, un sablon rouge qu'on appelle stérile de carrière parce que c'est ce matériau qui couvre la roche elle-même. C'est un matériau qui n'est pas concassable, mais c'est un matériau qui est très cohésif, très portant, hein, qui se met facilement en place. Donc c'est ce que nous avons fait pour remonter le niveau de la chaussée jusqu'au niveau ancien des caniveaux.
Donc là, ça a plutôt bien évolué, hein, on peut le dire. Hein.
Si, il faut plutôt féliciter cette action.
Le gouvernement provincial.
Justement.
On en parle justement avec Jean-Claude Mistin, qui est notre invité dans ce studio, auditeur de Radio Capi. Vous pouvez déjà poser vos questions. Si vous nous suivez à travers la ville de Kinshasa, réagissez au 081 070 2050. Si vous souhaitez intervenir directement, autrement dit en direct, dans Capi Action, alors là, appelez-nous au 081 890 63 94. À la prochaine, hein, Patrick.
Merci, Nicole.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Capi, quand vous voulez, où vous voulez.
Vous avez suivi tout à l'heure le grand dossier qu'on vient de vous présenter. L'hôtel de ville de Kinshasa s'engage dans la lutte anti-érosive. Depuis fin août, l'office des routes exécute les premiers travaux de construction d'un collecteur, mieux d'un vaste caniveau de canalisation d'eau au fond du site érosif Matondo Quartier Kingu dans la commune de Sembao. Il y a certains sites qui semblent bien évoluer parce qu'il y a plusieurs sites érosifs. On parle de 300 sites. Raison pour laquelle nous faisons le point aujourd'hui avec notre invité Jean-Claude Moussa, ministre provincial du plan. Jean-Claude Moussa, bonjour.
Bonjour madame.
Alors on peut dire félicitations hein, au gouvernement provincial pour les travaux qui sont en train d'être faits dans la ville de Kinshasa.
J'estime que c'est un peu trop tôt. Laissons voir les choses comment elles évoluent. Mais je voudrais quand même apporter une précision nécessaire. C'est que le site de Kingu, tout comme Kitokimosi, sont à charge du gouvernement central. Nous venons tout simplement en appui du fait du cri d'alarme lancé par l'Office des routes, qui a eu à bénéficier d'un premier compte, mais c'est fait qu'il s'est buté à un problème et qu'il fallait impérativement que nous puissions intervenir avant l'arrivée des grandes pluies. Mmh. C'est ainsi que le gouverneur a fait ce geste-là, qui nous a permis de descendre ce site et de voir comment les choses évoluent.
Oui, alors il y a 300 sites qui sont ciblés, 300 sites érosifs. Jusque-là, vous avez pu intervenir pour combien de sites?
Bon, j'ai pas le chiffre en tête. Il est en fait qu'il y a 300 têtes d'érosion, dont près d'une centaine au site universitaire. Et vous avez vu que là également, le gouvernement est intervenu au travers du ministère de l'ITP et le ministère de l'enseignement supérieur. Ils sont en train également de construire des glissières au niveau de l'université pour arrêter les principaux sites qui menaçaient sérieusement le centre nucléaire de Kinshasa.
Donc là, vous avez pu déjà faire quelque chose au niveau du site universitaire?
Ça, c'est le gouvernement central, comme je vous l'ai dit, qui est intervenu par le biais de ces structures organisées. Et nous suivons, d'autant plus que tous ces sites sont quand même dans la ville de Kinshasa.
Parce qu'il y a des conséquences, hein, notamment
des conséquences lourdes, et il faudrait qu'on puisse attaquer le mal à ses racines.
Mmh.
Depuis toujours, je n'ai cessé de dire qu'on a construit sur des sites non edificandi, aujourd'hui, on en fait les frais. Cessons de nous alarmer. Il faut plutôt prévenir, maintenant que la chose est faite, et quand une telle érosion avance à la vitesse que nous connaissons, c'est difficile de l'arrêter.
Oui. Tout à l'heure, notre confrère nous a dit qu'aujourd'hui, on devrait plutôt parler de l'ex-érosion de Kitokimosi. Ça signifie qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait, hein, déjà.
Bon, ce qu'il faut louer, c'est que c'est le génie militaire en son temps, avec le colonel, qui a eu à faire la première intervention au site Kitokimosi. Et quand le génie militaire est parti, quand nous sommes arrivés à la ville, nous avons confié à une entreprise AVC de pouvoir entretenir les structures, les ouvrages qui ont été faits par le génie militaire du colonel Molikava, le nom me revient. C'est ainsi qu'on a pu sauver et qu'aujourd'hui, Kartite qui travaille sur place n'a pas eu tellement de difficultés. C'était plus de faire le remplais et les glissières qui manquaient. C'est ainsi qu'on a pu sauver ce site.
Oui, alors pourquoi ne pas intervenir de la même manière avec le génie militaire pour les autres têtes d'érosion?
Bon, il faut vous avouer que la ville ne pourra pas attaquer les érosions. Ça coûte extrêmement cher de pouvoir construire ces ouvrages. Au bas mot, c'est pas moins d'un million de dollars. que vous connaissez la trésorerie de la vie, elle ne permettrait pas de pouvoir affronter toutes ces sclérosis. Mmh. C'est ainsi que dans la mesure du possible, nous faisons notre mieux pour pouvoir quand même arrêter ceci. Mais très souvent, la nature est plus forte et voilà, la catastrophe arrive.
Oui, tout à l'heure, en suivant le conducteur des travaux, il parle d'un acompte alloué par l'hôtel de ville de 30 000 dollars. Ce montant tombe comme une goutte d'eau dans l'océan lorsque le coût total des travaux est évalué à 770 000 dollars américains.
C'est bien ces coûts-là. Sur les 770 000, il y a l'ODR qui a reçu près de la moitié. Et comme les travaux risquaient de tomber à l'arrêt, on s'est dit, bon, au niveau de la ville, nous allons pouvoir donner des acomptes mensuels de manière à ce qu'on puisse continuer les travaux. Parce qu'il reste près de 100 mètres pour faire la glissière. Et si nous n'intervenons pas, nous risquons de perdre tout l'ouvrage. Parce qu'on a investi pour près de 400 000 dollars, il reste encore 300 000 dollars. Perdre comme ça des ouvrages parce qu'il manquait 300 000 dollars, je crois qu'il fallait la peine que le gouverneur puisse intervenir pour sauvegarder le travail qui a été fait. Et aujourd'hui, les 100 mètres, nous pouvons évoluer graduellement et chaque mois avec des interventions ponctuelles.
Oui, donc il faut compter que sur des interventions ponctuelles.
Bon, le gouvernement central qui a cette responsabilité pourra toujours intervenir, mais nous disons qu'il y avait quand même des vies humaines à sauver, il y avait deux routes importantes à sauver et ça valait la peine.
Oui, mais là, maintenant, on a l'impression qu'il faudrait cibler. Il y aura des sites prioritaires, si je comprends bien, et les autres devraient attendre jusqu'à ce qu'il y ait encore d'autres fonds ponctuels.
Oui, il faut pouvoir intervenir de manière prioritaire en choisissant exactement quels sont les sites pour lesquels nous devons impérativement intervenir, oui. Sans quoi une partie de la vie risque de s'arrêter.
Alors, Jean-Claude Moussa, quels sont finalement les sites prioritaires dans le programme du gouvernement provincial?
Bon, je vous dis d'abord que ce n'est pas dans notre programme.
Oui, vous appuyez le gouvernement central.
Mais nous appuyons le gouvernement central. Il y avait Kingu, dont on a essayé de maîtriser.
Oui.
Il y a Mataba. Les travaux étaient à un moment donné confiés à ABC. Ils avaient également Bolitango. Et maintenant, au niveau de l'ozone, il n'y a encore rien qui n'est fait. Bon, la nature a été quelque peu généreuse. Ça s'est arrêté, mais nous craignons pour prochaine pluie que ça puisse recommencer, que nous puissions courir derrière le temps et tous ces sites qui sont en train de se faire au niveau des érosions.
Donc, c'est plus les sites du côté ouest, mais du côté de l'est, notamment à Matete, à Kisenso, parce que là aussi, il y a à craindre le pire, hein.
Oui, comme vous constatez, j'en ai 300 têtes.
Mm.
C'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Par où commencer, c'est la grande question. Nous sommes en train de courir et de subir les événements. C'est malheureux de le constater maintenant. Il fallait qu'on puisse prévenir dès au début, lorsqu'il commençait à peine de naître.
Oui, donc nous pensons que vous prévoyez de faire quelque chose aussi au niveau de Matadi-Kibala, hein, certainement.
Tout à fait, dans notre budget qui vient d'être voté de 158 milliards, il y a une partie qui sera quand même consacrée à ce que nous faisons comme appui au gouvernement central, c'est tout à fait normal, mais nous comptons plus sur l'effort que doit faire le gouvernement en prenant ses responsabilités, en sauvant des vies, en sauvant des infrastructures.
Oui, il ne faudrait pas qu'on reste, comme tu disais, dans les nuages. On sait que bon, il y a du concret qui va être fait, qui est déjà fait, hein, n'est-ce pas?
Mais, qui est en cours.
Qui est en cours, une partie, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, les réactions que nous recevons, parce qu'il y en a déjà beaucoup, hein, dans ce studio, beaucoup de gens savaient que vous allez venir, raison pour laquelle ils ont réagi. Il y en a des gens qui nous parlent des raisons de Makaya vers le plateau des professeurs de la commune de Limba. Est-ce que vous allez intervenir de ce côté-là?
Bon, si c'est sur le site universitaire, ils ont leur régie. Ce qu'ils demandent, c'est tout simplement qu'on leur donne un peu plus de moyens. Parce que l'expertise est là, la main d'œuvre là, de qualité. Ils savent comment combattre les érosions. Mais je vous ai dit que dans notre budget, nous n'avons pas grand-chose. Nous comptons plus sur l'apport du gouvernement central qui a cette compétence-là.
Parlons du budget du gouvernement provincial. Quand vous dites que vous n'avez pas grand-chose, vous avez combien?
Bon, sur les 158 milliards, je crois qu'il y a près de 40% qui est consacré à l'investissement et à la lutte anti-érosive.
Près de 45%.
Et de 158 milliards de francs congolais qui représentent le budget de la ville.
Mais c'est beaucoup.
Près de
45% sur les milliards que vous avez.
Je vous dis, c'est pour l'investissement. C'est l'ensemble des investissements et des interventions. Vous savez tous à quel niveau se trouve la ville présentement du point de vue des infrastructures. Tout est à faire ou à refaire. Donc, en une année, en deux ans depuis que nous sommes là, nous ne pouvons pas rebâtir la ville qui a été détruite durant 40 ans. Laissez-nous un moratoire, nous avons un programme, jusqu'ici nous tenons bon, quoique il y a quelquefois des couacs, mais nous tenons bon de manière à pouvoir satisfaire et répondre aux attentes de la population.
Et vous avez un programme évalué pour combien de temps exactement ?
Le programme a été mis en place pour 5 ans. Nous venons de terminer la première année, il nous reste 4 ans, mais je vous dis que la première année a été difficile, très difficile, au point que le taux d'exécution de notre budget n'a été que de 14%. Je ne vais pas revenir sur les causes principales de ce faible score, mais dites que cette année, avec les dispositions qu'on a mises en place, avec les dédits qui viennent d'être votés, nous serons à même de pouvoir mobiliser un peu plus de ressources pour pouvoir répondre aux attentes de nos amis.
Nous rappelons donc à tous nos auditeurs qui peuvent intervenir au 081 070 2050 pour poser leurs questions à travers des SMS, bien sûr.
Alors, Jean-Claude Moussa, nous rappelons que vous êtes le ministre provincial du Plan. Nous parlons aujourd'hui du gouvernement provincial qui s'investit dans la lutte contre les sites érosifs, bien que c'est un programme qui revient au gouvernement central. Mais si nous retenons dans l'ensemble, c'est que ce qui est à la base parfois de ces érosions, c'est un problème des canalisations. Dans certains quartiers, dans la plupart des quartiers, il n'y a pas de canalisations d'eau, de pluie, et c'est ça qui est à la base de ça. Est-ce que peut-être à la longue, vous pensez peut-être construire, n'est-ce pas, des rigoles, des canalisations dans certains quartiers, orienter l'eau des pluies pour arriver à éviter un jour toutes ces catastrophes?
Oui. Alors, je me répète en disant qu'on ne construit pas au bas des collines, on ne construit pas sur les collines, et si on construit, on doit pouvoir canaliser aussi bien les eaux pluvieuses que les eaux usées. Et très souvent, les gens ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous tirer les cheveux à cause de notre mauvais comportement. Qu'à cela ne tienne, en tant que gouvernement, nous devons pouvoir prendre nos responsabilités. Alors, il y a certaines mesures préventives qu'on peut encore faire aujourd'hui pour essayer de sauver la plupart de ces habitations. La première, c'est quoi ? C'est une meilleure gestion des eaux pluviales. Les eaux pluviales, on peut les collecter au niveau de chaque parcelle en faisant maintenant des puits perdus. Parce qu'aujourd'hui, comment les gens se comportent ? Toutes ces eaux pluviales vont dans la rue. Et quand ça va dans la rue, c'est pas canalisé. Voilà le début d'une érosion.
Et j'ai vu dernièrement, même sur une avenue, là, vers Binda, où les gens ont des PVC grisés sur la grande route, quand les eaux usées sont déversées sur la route, et ça, c'est encore un problème.
Et c'est ce que nous avons demandé à tous les bourgmestres, qu'au niveau de chaque parcelle, dans les sites érosifs, que l'on puisse donner comme instruction de pouvoir creuser des puits perdus pour ramasser, drainer toutes les eaux pluviales. Ce sera déjà un début qui permettra de pouvoir arrêter les érosions.
Et ça, il faut une grande sensibilisation.
Absolument. À Mongakula, il y a déjà un geste qui a été fait par le bourgmestre de Mongakula qui a fait une instruction dans ce sens, et nous veillons à ce que cela puisse s'étendre à toutes les communes, à tous les quartiers concernés par ce phénomène d'érosion.
Oui, alors on va un peu revenir au site érosif de Kingu. Tout à l'heure, on a suivi l'ingénieur Jean-Claude Binda qui nous a expliqué un peu ce qu'il est en train de faire. Mais il y a eu quelques critiques de la part de la population. Certains estiment que les caniveaux qui sont en train de se construire sont trop profonds. Ils auraient aimé que ça soit un peu surélevé.
Bon, à chacun son métier.
Oui.
Nous avons affaire à une bonne expertise à l'Office des routes et ils s'y connaissent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une glissière, c'est-à-dire un collecteur qui permet de ramasser les eaux qui sont en haut pour les déverser dans le bassin de rétention. Et la première glissière qui a été construite a été faite en maçonnerie. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu tenir longtemps.
Mmh.
Et ensuite, aujourd'hui, il y a les eaux qui viennent du côté de l'université de UPEN de Kinshasa qui sont également canalisées vers cette même glissière. Alors, pour le moment, on corrige et on construit en dur, c'est-à-dire en béton. Ils ont commencé d'abord par recréer le bassin de rétention qui a été cassé. Si jusque-là, ce bassin a toujours pu tenir, parce qu'à l'époque que le ministre Kinkera coupait à son âme, en tant que membre du gouvernement, déployait tous les efforts voulus pour que ce bassin soit entretenu. Parce que le bassin, il faut l'entretenir. Quand vous ne l'entretenez pas, il déborde et ça cause pas mal de dégâts. Alors, après sa mort, on n'a pas pu curer le bassin de rétention, et aujourd'hui, nous en payons les pots cassés.
Mmh.
Alors, je disais que le bassin de rétention, dès qu'ils l'ont traité de nouveau, ils ont construit une digue
surtout parce que les moyens ne permettaient pas d'aller jusqu'au niveau de l'exutoire qui est la rivière Calamou. Ils ont conçu une digue à mi-chemin et ils ont commencé à remonter du bassin jusqu'au haut. Pour le moment, ils sont à 100 mètres de la route de Matadi. Et vous verrez, dès que l'ouvrage sera terminé, on n'aura plus ces inondations au niveau des Rosan Kingu. Parce que ceux qui habitent le coin, à la première pluie, il y a une inondation sur la chaussée, au niveau de la station essence, et ça empêche la circulation d'être fluide. Et on met chaque fois des pompes pour pouvoir aspirer les eaux et les jeter un peu plus loin. Mmh. Donc c'est cet effort qu'il nous reste à faire pour pouvoir terminer et qu'on puisse au moins avoir cette fois-ci quelque chose de solide qui pourra tenir durant 30 ans, pour autant qu'on entretienne le bassin.
Oui, notre collègue nous a dit qu'il faudrait peut-être penser à délocaliser la population environnante.
Bon, délocaliser toute la population, je ne pense plus au niveau où en sont les travaux. Mais encore quelques maisons qu'il faut exproprier. Mais sur place, avec le directeur provincial de l'EDR, on a fait le point de la situation. Si nous devons exproprier, je vous dis que la procédure est longue. J'en sais quelque chose. D'abord, ça relève...
Donc, c'est possible.
C'est possible, mais je vous dis la procédure est longue. Cela relève du gouvernement central. Nous préparons les éléments, nous envoyons au gouvernement central qui doit pouvoir signer un arrêté. Et avant d'exproprier, il faut indemniser. Alors, l'astuce qu'on a faite, c'est quoi? C'est tout simplement, nous sommes en train de racheter certaines parcelles et ça raccourcit la procédure et on n'a pas besoin d'avoir une expropriation, encore qu'il faut avoir assez de moyens financiers pour pouvoir
acheter. Mais parlons de l'indemnisation. On a suivi tout à l'heure, le gouvernement provincial avait remis par habitant $50.
Non, nous n'avons pas remis $50 par habitant.
Oui.
Lorsque, au niveau, je crois, de l'Ozone, l'année dernière, après les pluies diluviennes, il s'est fait que nous sommes rendus sur place. Le gouverneur est toute son équipe gouvernementale pour constater les dégâts. C'était pénible à voir. Et avec le peu de moyens que nous avons eu, nous avons remis $15,000 au bourgmestre devant les élus de Ndaliema et le chef de quartier.
Mmh.
C'est à leur niveau qu'ils ont fait des répartitions, mais je vous assure que le rapport que nous avons eu, c'était pas ce que nous attendions.
Et pourquoi on nous parle alors, tout à l'heure, vous avez suivi, on nous parle de $50.
Bon, c'est pour ça que je vous dis que le rapport que nous avons eu sur la répartition des $15,000, ça nous a fait très mal au cœur.
Ça devrait pas avoir été mal géré, alors.
Tout à fait.
Et détourné, probablement.
C'est possible.
Alors, revenons sur la question, Jean-Claude Moussa, vous avez également visité dernièrement, nous savons, les routes en réhabilitation. Quelques 4 kilomètres de la route de la Libération sont presque totalement réfectionnés. Il en reste encore 5. Pourquoi ces travaux prennent beaucoup de temps?
Bon, c'est pas facile de refaire une route, surtout après la détérioration de la route telle qu'elle était. Il nous fallait complètement refaire au niveau de du grand Liboulou, comme ils appelaient, combattre l'érosion. Il y avait plusieurs points chauds. Et selon la stratégie définie avec l'entreprise Afitec, il fallait d'abord s'attaquer à tous les points chauds, les stabiliser de manière à commencer les vrais ouvrages de construction de route. La route porte sur près de 13 km de l'Upen jusqu'au rond-point Moulard et c'est la première phase sur laquelle nous avons eu à effectuer les travaux et tous les points chauds sont maintenant terminés, mais le grand problème reste maintenant les expropriations et les déguerpissements pour construction anarchique. Si vous vous rendez aujourd'hui sur le chantier, c'est pas facile de travailler. Il y a toute la population qui exerce le petit commerce aux abords de la route. Les constructions anarchiques également, et les collecteurs que nous sommes en train de construire, à certains endroits, on ne peut pas continuer du fait d'occupation anarchique par les habitants.
Mais des fois, il faut agir, hein. Il faut frapper aussi fort, parce que sinon, tous vos efforts, finalement, se résument à zéro.
Nous frappons fort. On porte plainte contre le gouvernement central. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas responsables, mais je vous dis que nous allons tenir bon et que cela va s'exécuter. Nous utilisons peut-être la chicotte et la carotte, mais je crois que ça ira. Nous avons pris des dispositions telles que, dans un premier temps, toutes les constructions anarchiques, on va devoir les détruire, Et pour les expropriations, nous allons pouvoir préparer le dossier à transmettre au gouvernement central.
Oui, vous avez vu, il y a des réactions qui continuent à arriver. Il y a un auditeur qui nous dit, on nous parle de plus en plus de l'arrivée des Chinois. Hein. Tout le monde le sait, les Chinois sont là pour entreprendre de grands travaux, de réhabilitation des routes, et même de construction des routes. Alors, cet auditeur, Jean-Pierre, depuis Delbault, nous dit, nous aimerions les voir à l'heure sur la route, notamment la Loue, au niveau de Delbault, car les travaux se sont arrêtés depuis longtemps. Est-ce qu'ils vont arriver là-bas, les Chinois ?
Bon, d'abord, il faut prendre connaissance du contrat chinois. Les Chinois ne vont pas construire pour nous toutes les routes. Au niveau du gouvernement central, tel que négocié avec eux, donc la ville du gouvernement central, ils nous ont octroyé 250 km à construire par le groupement des entreprises chinoises. Nous avons déjà serré l'ensemble des routes et on nous a alloué, dans un premier temps, ce sera 145 km qu'on va construire avec le groupement des entreprises chinoises. Parmi ces 145 km, premiers 145 km, vous avez la vue de l'université, avec tous les sites érosifs au niveau de Kindele. Vous savez qu'aujourd'hui, la route est bloquée.
Ah oui,
au niveau de Kimwenga. Au niveau de Kimwenga, la route est coupée en deux. C'est les entreprises chinoises qui vont faire.
Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui est fait. Donc, c'est bloqué.
Non, c'est pas bloqué. Ils ont une méthode de travail telle que quand ils vont commencer, alors rien ne va les arrêter.
Mais ils vont commencer quand ?
Laissez-moi une petite phrase terminer la phrase.
Allez-y.
La première phase constituée à pouvoir acquérir l'ensemble du matériel et des engins.
Chose faite aujourd'hui.
Et vous verrez que pour la chaussée de Kimwenga, c'est au niveau de Mongafula, dans la concession Air Congo à l'époque, où est stocké ce matériel. Aujourd'hui, on va devoir bientôt lancer les travaux. Mais il y a un petit couac. Le ciment, la pénurie de ciment. Ça pose un grand problème au niveau de toutes les entreprises. Partout où je passe, c'est le même cri de détresse. Parce que sans cet emprunt important, on ne pourra pas faire plus de 10 km, il y aura pénurie. Et comme un malheur ne vient jamais seul, aujourd'hui, vous avez appris ce qui s'est passé à Lukala. Et d'après les renseignements en ma possession, pour remettre l'usine en marche, c'est entre 3 et 6 mois.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Lukala ?
Il y a eu effondrement d'une partie de l'usine qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus produire. L'usine est à l'arrêt. Sinat, on apprend que Sinat reprend bientôt, mais la seule Sinat, avec la demande actuelle en ciment, ne pourra pas faire face. Aujourd'hui, on doit indubitablement recourir à l'importation. Et encore un autre problème, le biais maritime entre Mwanda et Boma pose problème. On ne peut pas venir avec des navires de gros tonnage passer au travers du biais maritime. Faut-il se battre sur le point noir ? Grande question. Donc, le problème de ciment reste tout entier.
Donc les Chinois sont là pour rien finalement.
Non, ils ne sont pas là pour rien.
Parce que là, ils ne peuvent pas travailler, il n'y a pas de sac de ciment, malgré leurs engins.
Bon, avec le petit stock stratégique qui est déjà sur place, ils sont en train d'aménager toutes les voies d'accès au niveau des carrières. Parce que les principales carrières sont à l'ouest de la ville, du côté de Kinsuka. Et si vous avez suivi les informations il y a cela deux semaines, vous avez pu voir les images, comment ils sont en train d'agrandir la route. Parce que pour eux, il est capital de pouvoir réhabiliter la chaussée, cette route-là, qui sera empruntée par des engins de gros tonnage, qu'on puisse assainir, réhabiliter cette route avant pour avoir un accès facile aux carrières.
Oui, il y a de grands travaux qui pourraient être faits, hein, mais bon, pour l'instant, le problème que vous avez posé est primordial.
Oui.
S'il n'y a pas de sac de ciment, ces travaux vont s'arrêter là.
Alors, il appartient maintenant au gouvernement central de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour essayer de voir comment importer du ciment, sans quoi vous verrez que beaucoup de travaux de chantier sont à l'arrêt. Vous avez vu, le bâtiment pour le moment se porte bien. Quand le bâtiment se porte bien, l'économie va bien.
Mmh.
Il y a des bâtiments qui poussent comme des champignons dans toute la ville, mais ils sont tous butés à ce grand problème de ciment. Il faudrait qu'on puisse trouver une solution durable, hic et non.
Oui, on nous a même parlé d'une grande autoroute qui devrait être construite à partir de l'aéroport jusqu'au centre-ville.
Bon, c'est après l'université, il y a également l'entreprise qui va construire l'autoroute qui est prête. Ils ont déjà fait tous les repérages. J'ai eu à recevoir pas mal de gens qui sont venus se plaindre du fait qu'on avait mis des croix sur les habitations, parce que ce sont des repérages qu'on a fait, par où vont passer les ouvrages. Vous savez que ce sera d'abord une voie d'accès rapide au niveau de ce CIMAT jusqu'à Bon Marché, et ensuite ce sera l'autoroute qui partira de Kinaba jusqu'à l'aéroport.
Mais tant qu'il n'y a pas de sac de ciment, On peut mettre ça au calende grec, hein?
Pas du tout au calende grec. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a des alternatives pour pouvoir alimenter la ville en ciment.
Mmh. Oui, soit le gouvernement peut, par exemple, soutenir la cimenterie de Moukala, l'aider avec des moyens pour que...
Mais c'est entre 3 et 6 mois, on peut pas bloquer la machine.
Non, pour qu'elle soit réhabilitée avant ce délai-là.
Non, ce sont les études qui à la tête parce qu'il faut passer commande. Il faut qu'on puisse usiner les matériels qui est détruit. Les usines de ciment, on les vend pas comme des petits pains, ça se fait à la commande. Une commande d'une machine, d'une structure peut prendre un mois. Le temps que ça arrive par bateau, le temps de monter, vous voyez que il y a le temps. Entre temps, on doit pouvoir trouver une alternative.
Il y a des moyens maintenant et qu'on passe commande, donc ça peut.
On va raccourcir quelque peu les délais, mais il y a toujours un délai qui est là.
Voilà. Jean-Claude, on va s'arrêter là, il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire en une journée. On va vous réinviter prochainement pour voir comment tous ces travaux évoluent dans la ville de Kinshasa. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été les nôtres dans ce studio aujourd'hui. On aura certainement à aborder avec vous d'autres questions prochainement dans Papier Action. Merci, à la prochaine.
Merci.